Le sujet qui nous intéresse ce matin, il y a besoin d'être prêt à ça. Pour qui voter ? On peut y aller. Alors, c'est pas un titre en promesse de vous donner à coup sûr quel bulletin vous êtes appelé à mettre dans 2 semaines lorsque vous serez appelé aux urnes. Vous savez d'ailleurs qu'en tant qu'Église, nous nous devons un devoir de réserve, un devoir de neutralité, n'est-ce pas ? C'est ce que nous demande l'État. C'est bien logique, nous sommes dans un État laïque, nous ne faisons pas de politique à ce titre, mais nous réfléchissons malgré tout autour de la politique et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Un titre qui fait plutôt l'écho de ce que j'ai entendu cette semaine, un certain désarroi, peut-être pas chez tous, mais en tout cas au moins chez certains. C'est vrai que celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Une élection européenne qui d'habitude ne passionne personne et qui tombe un peu comme ça. On découvre qu'il y avait une élection le dimanche soir, peut-être en ouvrant la télé. Et là, qui se trouve au centre d'un des moments les plus importants, en tout cas électoralement parlant, de ces dernières décennies. Les événements de cette dernière semaine sont dignes des drames grecs les plus tragiques ou de la série Netflix la plus palpitante selon votre génération, notre 5e République vit des temps troublés. Alors ce matin, on va mettre de côté les articles de journaux, tour à tour partisans, alarmistes, prophétiques, et nous allons plutôt chercher à affirmer notre espérance en ces temps troublés. Peut-être vous aviez remarqué, j'aime bien avoir un fil conducteur dans les enseignements. On part d'un livre biblique et puis on poursuit cela. Alors, ces derniers temps, ça a été moins le cas parce qu'on avait différents intervenants, différents événements. Mais pourtant, il y a un certain fil conducteur dans mes interventions des dernières semaines. Comment notre foi nous apporte une espérance en ces temps troublés? Et c'est ce que je vous propose de méditer par rapport au sujet de ce matin. Comment croire en l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme on l'a encore professé ce matin, transforme concrètement nos vies quand notre semaine redémarre. Ou plus exactement, dans notre cas, dans 2 dimanches, quand nous devrons aller voter. Comment le fait de croire ce que nous croyons va changer notre manière d'aborder ce moment. Et pour ce faire, je vous propose un point de départ, un texte qui ne parle pas d'élection, mais qui va nous aider à mieux saisir l'enjeu que nous ne percevons pas toujours derrière notre réflexion politique. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, et nous allons lire les versets 5 à 8, comme à l'habitude, le texte sera projeté. Deutéronome 4, les versets 5 à 8. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les, car c'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Un texte qui ne parle donc pas d'élection, mais qui nous parle bel et bien de politique. C'est en quelque sorte le programme que devait appliquer Israël en tant que nation et les raisons pour lesquelles il devait le faire. Et ce sera donc notre premier point ce matin. De quelle manière le projet de salut de Dieu est finalement relié au comportement sociétal de son peuple. On va le voir dans l'Ancien Testament et on va le voir ensuite dans le Nouveau Testament. Dans ce texte donc de Deutéronome, c'est Moïse qui parle. on est vers la fin de sa vie. Le peuple de Dieu dont il a la charge vient d'errer 40 ans dans le désert. Et une nouvelle génération se prépare à entrer en pays promis. Et nous avons donc dans nos Bibles le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres, qui nous rapporte la loi de Dieu, la loi que devait appliquer le peuple de Dieu. Mais c'est intéressant parce que Moïse répète cette loi, c'est le titre de ce livre, Deutéronome, deuxième loi, pas comme s'il y en avait une autre, mais c'est une répétition que Moïse donne à la génération qui va entrer dans le pays promis, puisque la première génération, elle, s'est rebellée contre Dieu. Et Moïse, à travers l'extrait que nous venons d'écouter, explique que l'obéissance d'Israël aux lois divines devrait produire deux choses. Une justice propre à cette loi, des ordonnances justes. Quelle est cette grande nation qui a de telles ordonnances aussi justes que celle-là? C'est l'interrogation du verset 8. Donc, une justice propre à cette loi. Et une deuxième chose, un témoignage de sagesse et d'intelligence devant les autres peuples. C'est le verset 6. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Le premier objectif de la loi de Dieu, c'est donc d'amener son peuple à être un peuple qui a une conduite juste. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple sur le mont Sinaï. Dieu a délivré son peuple de 400 ans d'esclavage en Égypte et en réponse à cela, il demande à son peuple de se conduire conformément au caractère, à la personne du libérateur, qui est donc l'Éternel. Et tout le Pentateuque précise ce que Dieu attend de son peuple en matière de loi, de moralité, de justice, de pureté rituelle, de religiosité. Ça, c'est le premier aspect de la loi, amener son peuple à avoir une conduite juste. Mais il y a donc un second objectif visé par cette loi, qui est un peu en filigrane dans l'Ancien Testament, on ne la voit pas si facilement apparaître que ça, mais par contre, dans notre texte de ce matin, elle est parfaitement claire. Ah, il y a un petit bout qui manque, là, je suis où? Il y en manque des bouts, c'est bizarre. Ah, je ne suis pas sûr que les diapos soient dans l'ordre. Je ne sais pas si tu arrives à voir ça, s'il y a une numérotation des diapos. Bon, c'est pas grave, sinon vous allez me suivre, on verra si un petit peu... switcher si jamais tu vois que c'est un problème d'ordre, parce que sinon là ça va être le bazar de la manière dont je les vois. La deuxième aspect, c'est donc que la loi est donc non seulement appelée à produire une conduite juste chez son peuple, mais elle est aussi appelée à être un témoignage pour les autres peuples. Le peuple de Dieu est appelé à être un témoin collectif pour les autres nations. En fait, le peuple juif devait constituer une contre-culture, une société humaine alternative, se distinguant par la sagesse de ses lois et par la justice sociale qui devait en découler. Le fait qu'Israël respecte la loi devait conduire les autres sociétés qui entouraient Israël à faire en quelque sorte leur autocritique. Les nations environnantes devaient reconnaître en Israël une sagesse et une justice qu'elles n'arrivaient pas à atteindre par leur propre loi sociétale. Et elle devait reconnaître qu'il y avait là une bénédiction, une bienveillance du Dieu d'Israël à l'égard de son peuple qu'on ne trouvait pas chez elle. C'est cette fameuse, fabuleuse expression plutôt, qu'on trouve là dans ce passage. Un Dieu plus proche de son peuple que les autres dieux. Et ça devait transparaître à travers justement la loi. Les lois de... justement, l'Éternel, par rapport aux lois des autres dieux, ne devait pas paraître comme arbitraire, mais pour bonne pour ceux qui allaient les suivre. On voit donc qu'il y a dans l'Ancien Testament une dimension missionnaire qui consiste non pas, comme nous on l'entend généralement, à aller vers les autres peuples, mais à être en quelque sorte une société prototype que tous les autres verraient et qui donnerait envie aux autres peuples de venir vers Israël. En ce sens, l'ancienne alliance peut être vue comme, d'un côté, être une société qui reflète les lois de Dieu, et de l'autre côté, un témoignage à travers ces lois pour les autres peuples, comme les deux faces d'une même pièce. Ah, super, bravo Mathis. Mais qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance ? Le projet de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est mon deuxième point. Car nous le savons, le peuple de Dieu, le peuple de l'Ancienne Alliance, a échoué à être cette société juste qui devait être un témoignage aux yeux des autres peuples. En fait, c'est même le contraire qui s'est passé. Elle est plutôt devenue un sujet de raillerie parmi les nations. Pour autant, Dieu n'en a pas fini avec son projet. Il continue à tout mettre en œuvre pour que sa loi, sa volonté, puisse apparaître comme une bénédiction pour les hommes, pour l'humanité. Il le fait tout d'abord en ce que c'est par l'accomplissement de la loi, c'est parce que Christ a accompli, lui, la loi parfaitement, ce qu'Israël n'avait pas fait, que le salut est ouvert à toutes les nations. Ce qui était, dans l'Ancien Testament, incapacité d'accomplir la loi de Dieu, devient dans le Nouveau, justement, accomplissement parfait en Jésus-Christ et objet de bénédiction dans la Nouvelle Alliance. Mais l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ produit une deuxième chose très importante. Il n'est plus désormais nécessaire de faire partie d'une nation qui a comme loi les lois de Dieu pour s'approcher de Dieu. Ça, c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Ça n'est plus le cas dans la Nouvelle. En fait, désormais, en Jésus-Christ, il est possible d'être déclaré juste devant Dieu, même si on appartient à une nation qui, elle-même, s'éloigne de Dieu, à une nation païenne. C'est ce que Paul précise en particulier dans son épître aux Éphésiens, en s'adressant en particulier aux chrétiens d'origine non-juive. « En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, pas par votre appartenance à la nation d'Israël, en tant que peuple de Dieu, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Les croyants de la Nouvelle Alliance ne sont plus évangélisation pour les autres, en instaurant une nation avec des lois qui reflètent la volonté de Dieu, vers laquelle auraient envie de converger tous les peuples. Le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance est évangélisation en annonçant ce message de bonne nouvelle et en étant communauté, nouvelle communauté parmi les nations païennes. Et cette nouvelle communauté, c'est l'Église. C'est cette communauté nouvelle qui doit être un témoignage de la bénédiction qu'il y a désormais à suivre les lois de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit d'une autre manière dans sa parole. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'Église, en tant que communauté, devient un témoignage parmi les nations. Vous voyez la transformation de manière dont Dieu veut s'adresser au monde. Des communautés qui reflètent la loi de Dieu au sein même de nations qui elles-mêmes ne sont pas appelées en quelque sorte à refléter la loi de Dieu. Alors, on le sait, hein, ça n'enlève pas notre responsabilité de faire rayonner les principes de sagesse et de justice sociale comme on les a entendus dans le livre du Deutéronome. Mais Jésus le dira plutôt ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une lumière au milieu de la nuit, appelée justement à montrer ce que cela veut dire que de suivre Dieu. C'est important de comprendre ça parce que je pense qu'on fait un espèce d'amalgame quand on réfléchit à la politique en ayant en tête que quelque part la politique de notre pays devrait refléter absolument nos valeurs chrétiennes. C'est pas exactement la mission dont Dieu parle.
hein, pour le peuple de la Nouvelle Alliance.
Dans l'Ancienne Alliance, Israël est une nation qui devait vivre donc civilement la loi de Dieu, afin que toutes les nations voient ce qu'appartenir à Dieu veut dire. Il y a une espèce de mouvement centripète. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église est dispersée parmi les nations. Elle est appelée à vivre intentionnellement la loi de Dieu, afin de montrer au sein même des nations ce que cela veut dire de vivre selon Dieu. C'est un mouvement centrifuge. L'Écriture invite le peuple de l'Ancienne Alliance à examiner si la société dans laquelle elle vit reflète bien les lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un principe de rétribution dans l'Ancienne Alliance. Si cette société reflète les lois de Dieu, elle va en vivre la bénédiction. Si elle ne reflète pas les lois de Dieu, elle ne va pas, elle va en vivre plutôt les mauvais effets, et ça va être un sujet de malédiction pour le peuple. Alors que dans la Nouvelle Alliance, on laisse de côté ce principe de rétribution, hein, on n'arrête pas de le dire, pour avoir un principe d'inspiration. On est là pour inspirer le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la Nouvelle Alliance, on voit que l'Écriture prépare le peuple de Dieu à vivre en milieu hostile, à vivre dans des sociétés diverses et variées qui ne vont pas forcément suivre la loi de Dieu. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière à travers l'épître de Pierre. Un des principes, c'est par exemple l'autorité. En toute logique, on se dirait, si l'autorité de mon pays ne suit pas les lois de Dieu, j'ai toute possibilité de ne pas me soumettre à cette autorité. Logique. Et Pierre nous dit, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Il nous dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Et on rajoute, quand on lit l'ensemble de la Bible, sauf si, bien sûr, cette autorité nous appelle à renier notre foi. Mais c'est bien nous équiper pour vivre dans un milieu hostile, nous équiper pour vivre dans une société qui ne va pas forcément refléter les lois de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis d'une telle autorité? Et l'Écriture est claire. Le principe d'autorité à la prédominance, on doit rester dans ce principe, même si l'autorité ne suit pas les lois de Dieu. Autre principe qu'on trouve dans l'épître de Pierre, c'est de se dire que dans une société qui ne suit pas les lois de Dieu, forcément ça va être plus compliqué pour les chrétiens de vivre. Ça va amener des situations délicates, des situations de souffrance, des situations où on aurait peut-être envie de lâcher l'affaire. Et là, Pierre nous exhorte d'une autre manière. Il nous dit, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Mais pour vous, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Oui, vous allez vivre dans une société qui ne suit pas les lois de Dieu. Ça va être compliqué, on va vous calomnier, mais vous êtes appelés à garder les yeux fixés sur Dieu, même si c'est à votre détriment, même si c'est à votre perte. Encore une fois, l'Écriture nous équipe pour vivre dans une société qui ne va pas forcément suivre les lois de Dieu. Alors, quel est le rapport avec les élections ? Il me semble que ce parcours, un peu, c'est de comprendre comment se passe la manière dont Dieu nous appelle à discerner la société dans laquelle nous vivons, nous amène à tirer un certain nombre de leçons pour savoir comment vivre en temps troublé, en tant qu'électeur, en tant que citoyen électeur. Comment vivre notre espérance en ces temps troublés? Et la première leçon que j'aurais envie de tirer de tout ce parcours, c'est concentrons-nous d'abord sur notre mission. Dans la Nouvelle Alliance, la mission que Dieu nous confie n'est pas de créer une société avec des lois qui reflètent les lois que nous trouvons dans la Bible. C'est pas notre mission, c'est pas notre objectif premier. On l'a dit, notre objectif premier, c'est d'apporter une bonne nouvelle dans un monde qui se perd et d'être une communauté qui permet de montrer « ça marche ». Les lois de Dieu sont bonnes et nous sommes appelés à les suivre. C'est ça notre principale mission. En Occident, on est clairement à la fin d'une ère. 16 siècles d'une société essentiellement basée sur les valeurs chrétiennes s'achèvent. C'est la situation en Occident, c'est pas la situation partout dans le monde, mais c'est la situation en Occident. Et oui, on est dans une situation de transition qui nous secoue. Est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien ? Honnêtement, je n'en sais rien. Parce que si notre but n'est pas de mettre en place des lois qui reflètent les valeurs de Dieu, et c'est ce qui s'est passé pendant 16 siècles, mais ça n'a quand même pas empêché un bon nombre de personnes de passer à côté d'une relation personnelle avec Dieu. On peut très bien vivre dans une société qui reflète les valeurs de Dieu, mais ne pas du tout comprendre ce que la Bible nous appelle à vivre, cette relation qu'on a encore citée ce matin, de reconnaître l'Éternel comme notre Père. Nous sommes appelés à être témoins de cette espérance vivante dans un monde qui se perd. Et puis si on prend nos textes bibliques, on va se rendre compte que c'est bien dans ce contexte que tout a commencé, il y a 2000 ans, dans un contexte totalement païen, où un empereur romain, parfois empris de sagesse grecque, mais qui n'avait pas de problème à laisser les plus grandes sauvageries s'exprimer dans son pays. C'est la réalité des chrétiens au premier siècle de notre ère. Et je pense que l'exhortation et l'encouragement pour nous, c'est de ne pas nous lamenter de ces temps qui se troublent. Parce qu'en fait, ça ne change rien au mandat qui nous est confié. Il y a des élections qui peuvent nous inquiéter. Mais elles sont inquiétantes pour ceux qui placent leur espérance dans une politique de ce siècle. Notre espérance n'est pas dans cette politique-là. Elles peuvent apparaître une menace pour celui qui voudrait vivre dans une société confortable, qui va dans le sens de nous, ce que nous, on apprécie. Mais ce n'est pas la mission que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas le projet politique de Dieu pour son peuple. Et voilà qui nous donne une bonne nouvelle en pensant à ces élections. Quel que soit le programme, le parti qui sortira dans 2 semaines, notre mission reste la même. Elle est la même qu'hier, la même qu'aujourd'hui. Elle sera encore la même demain. Être témoin d'une espérance vivante dans un monde perdu, en recherche de sens, mais séparé de Dieu. Quel que soit le vainqueur dans 2 semaines, nous sommes victorieux. Parce que Jésus a vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Premier point, donc, concentrons-nous d'abord sur notre mission. Ça va nous aider à voir que ce prisme-là et peut-être pas aussi direct et frontal que ce qu'on en aurait l'impression. Deuxième chose, ça ne nous empêche pas quand même de réfléchir à notre responsabilité dans tout ça. Soyons des citoyens éclairés. Si notre espérance en Christ ne nous amène ni à nous illusionner, ni à nous inquiéter outre mesure sur ce qui va se passer, ce n'est pas pour autant qu'on doit se désintéresser de tout cela. Notre cité n'est pas de ce monde, mais on l'a dit, on est appelé à influencer ce monde là où nous sommes impliqués. Pour reprendre ce que Dieu a dit à son peuple en partance pour Babylone, recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. On l'a dit, notre but premier, ça n'est pas la prospérité, c'est d'être une lumière pour les nations. Mais on a bel et bien un regard, une responsabilité à jouer vis-à-vis de cela. Alors, comme nous avons notre mot à dire dans une démocratie sur les décisions qui sont prises, forcément, il nous faut réfléchir au fameux « comment choisir ?». Alors, j'imagine que, comme moi, votre premier réflexe, c'est de prendre des programmes et de vous dire lequel correspond mieux, d'après moi, aux valeurs chrétiennes. Là, vous devriez tilter avec ce que je viens de vous dire. Peut-être que ce n'est pas, en tout cas, la seule porte d'entrée, puisque notre but, ça n'est pas d'instaurer une société avec les valeurs qui ressemblent le plus à nos valeurs chrétiennes. On en vient, et ça n'a pas été particulièrement probant en termes de réveil spirituel en France. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais c'est juste pour dire « Ah, tiens, intéressant, ce n'est pas forcément la première enfin la seule porte d'entrée. Et je pense qu'il faut le faire. Hein. On ne va pas
laisser cours à n'importe quoi. Mais peut-être que ce n'est pas uniquement ça, la manière dont il faudrait réfléchir.
En fait, aucun candidat, aucun programme en lice n'est capable d'instaurer une société chrétienne. En fait, seul Jésus pourrait le faire. Si je devais faire un petit aparté théologique, si vous croyez dans le millénium, c'est justement une des raisons du millénium. Voir ce que ça ferait si Jésus instaurait une société chrétienne pour croyants et non-croyants. Est-ce que ça les convaincrait ou pas? Bon, c'était ma petite parenthèse. Mais voilà, c'est la parenthèse de la raison du millénium. Mais ça, aucun homme n'est capable de le faire. Donc la première limite à cette idée de se dire c'est quoi l'adéquation entre les valeurs chrétiennes et les programmes politiques, c'est de se dire en fait c'est pas le but. La deuxième, c'est qu'en fait si vous êtes cohérent et honnête, bah, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun programme avec lequel on est parfaitement à l'aise, parce qu'en fait les valeurs chrétiennes vont se refléter à peu près dans tous les programmes. Rien de plus logique. On vient d'une société chrétienne où chacun s'est saisi des éléments qui l'intéressaient. Et la difficulté, bah, c'est de les mettre tous ensemble. Donc c'est normal qu'on en retrouve des bouts dans tous les sens. Et donc, on va forcément, on en choisissant un sur cette base au détriment de l'autre, être frustré. On n'arrivera pas à allier l'éthique, la morale et l'accueil, qui sont pour autant toutes des valeurs chrétiennes, toutes autant les unes que les autres. Donc, nous arrêter à cette question de juste comparer les programmes et nos valeurs chrétiennes, vous l'avez compris, à ses limites. Alors, quelle autre approche on peut avoir? Paul, en exhortant Timothée à prier pour les autorités, nous en donne une autre. Il ne l'incite pas à prier pour qu'elles mettent en place des lois selon la volonté de Dieu. Sans doute, Paul n'avait jamais imaginé que ça puisse arriver un jour. Il l'invite à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà une autre piste. C'est un peu différent. L'idée n'est pas de savoir quel programme ressemblerait parfaitement à nos valeurs, mais quel programme, quel type de personne, quel type de manière de faire de la politique va nous permettre de jouer le plus fortement notre rôle. Ça ne veut pas dire qu'elle va être d'accord avec nous, ça veut dire qu'elle va nous associer, nous permettre, nous, de nous impliquer sociétalement pour jouer le rôle qu'on veut jouer auprès de la société, être lumière parmi un monde qui se perd. Alors la dernière chose sur laquelle nous devons veiller quand nous votons, c'est sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes. Pendant ces prochains jours, on va être prompt à trouver les candidats démagogues, à trouver qu'ils ne pensent qu'à leur propre carrière, à trouver qu'ils ne cherchent que leur propre intérêt. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes des citoyens responsables? Des citoyens qui nourrissent un esprit de reconnaissance pour les services positifs que nos gouvernements accomplissent, même s'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Des citoyens qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui sont prêts à voter en réfléchissant plus globalement à ce qui serait bon pour la société. Des citoyens qui renoncent à la colère facile de ceux qui n'ont pas été exaucés, reconnaissant que c'est justement le rôle d'une démocratie, de prendre des décisions et que certains vont s'y retrouver, et d'autres moins. Des citoyens qui comprennent que si nous voulons influencer notre société par l'Évangile, un vote ne changera pas grand-chose quand même. Par contre, notre engagement dans la société, oui. Ne ressemblons pas à ces supporters de foot qui arriveraient à refaire l'équipe devant la télé en disant à l'entraîneur ce qu'il devrait faire. On est appelé, si ces choses-là nous perturbent ou nous animent, à nous engager, nous, dans la société, à notre échelle, là où nous sommes. Sinon, franchement, nos discours n'ont pas grand intérêt.
Concluons. J'espère que ce que nous méditons ce matin vous encourage à vivre avec confiance ces prochaines semaines. Notre espérance en ces temps troublés nous rappelle que le futur gouvernement, quel qu'il soit, n'a pas l'autorité ni la capacité de nous rendre heureux comme Dieu peut le faire. Notre espérance vivante nous ramène à des attentes réalistes, sans illusion, sans crainte excessive sur un futur gouvernement. Elle nous convainc que notre plus grand ennemi, c'est le péché. Les problèmes de gouvernance sont liés au péché. Ceux qui nous gouvernent comme ceux qui sont gouvernés. Notre espérance en ces temps troublés nous appelle à faire confiance en Dieu. Peu importe les circonstances, les excès, les injustices de notre génération, car nous connaissons déjà le résultat du vote. À la fin, Christ est vainqueur. J'aimerais qu'on prie, et puis je vais demander aussi si Gordon et Jean-Pierre veulent aussi prier pour les autorités. Après, donc je vais d'abord prier, puis je vous laisse ensuite intercéder aussi dans cette période particulière. Oui, Seigneur notre Dieu, on sait que c'est un sujet qui est compliqué, un sujet qui nous anime et c'est normal. On est forcément perturbé par ce qui se passe dans notre pays. Mais aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous à garder les yeux centrés sur notre mission. Je prie pour ceux qui sont particulièrement perturbés ce matin. Je te demande vraiment de leur donner ta paix, comme tu le promets, dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Je te prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment continuer d'entendre ta voix, entendre ce que tu nous appelles à faire, en tant que chrétiens engagés dans notre foi et en tant que citoyens dans notre monde. En ton nom, Seigneur.